I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Bonjour, bonsoir, bon après-midi à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode d'Histoire de Daron. Je suis Fabrice, je suis votre hôte et cette semaine, je vous propose d'écouter l'histoire de Xavier. Alors un épisode un peu spécial puisqu'Audible m'a offert la possibilité de venir enregistrer un épisode sur leur stand au Salon du Livre 2019. J'en ai donc profité pour inviter Xavier sur les bons conseils de Lucie Cosmala. Lucie qui est d'ailleurs une ancienne de l'équipe de Mademoiselle, qui d'ailleurs parle de littérature jeunesse sur sa chaîne YouTube et sur son podcast. Si le sujet vous intéresse, vous devriez aller la découvrir. Je vous mets tous les liens dans les notes de ce podcast. Pour revenir à mon invité du jour, Xavier est papa de deux filles de 6 et 4 ans, mais est aussi éditeur jeunesse. Il a notamment la particularité d'avoir un budget illimité pour les livres de ses enfants et a à cœur de leur faire découvrir et aimer la lecture. Dans cet épisode, il vous proposera notamment tout plein de conseils de lecture pour vos enfants. Vous verrez, c'est très cool. Vous le savez désormais, ce podcast est propulsé par Rocky, R-O-C-K-I-E. C'est le magazine pour accompagner les femmes et aussi les hommes qu'ils souhaitent dans leur vie d'adulte. Vous pouvez vous abonner à notre newsletter sur rockymag.com pour ne manquer aucun nouvel épisode d'Histoire de Daron. Vous connaissez la rengaine, si vous aimez Histoire de Daron, je vous invite à vous abonner à ce podcast, à lui mettre une très bonne note sur vos applis de podcast préférés, par exemple Apple Podcast si vous avez un iPhone, ou alors Podcast Addict ou Castbox, c'est très dur à dire, sur Android, mais aussi sur Deezer, Spotify, SoundCloud, YouTube et même désormais sur Audible. Vous pourrez retrouver tous les liens dans les notes de ce podcast. Merci d'avance pour tous vos commentaires, vos bonnes notes et vos bonnes vibes. Et je vous laisse en compagnie de Xavier.
Salut Xavier, ça va ?
Oui, très bien.
Bah, merci beaucoup de venir.
Bah, écoute, avec plaisir.
Alors Xavier, c'est un épisode un peu spécial, dans des conditions un peu spéciales. D'habitude, on est dans le canapé de la rédac de Mademoiselle. Là, on est dans le studio qui a été monté par Audible au Salon du Livre.
Bah c'est assez marrant parce qu'il y a plein de gens qui passent autour.
Voilà, les gens nous regardent. Bonjour les gens, c'est très étrange. Je ne fais pas ça d'habitude. merci beaucoup d'ailleurs à Audible parce que Audible a été sponsor des trois derniers épisodes. Donc merci. Et puis ça fait plaisir de. Merci pour l'argent, Audible, d'une manière générale. Et puis merci à toi de venir aussi. C'est très cool de ta part. C'est Lucie Cosmala pour rendre à César ce qui lui appartient, qui nous a mis en,
absolument,
nous a mis en contact. Et Lucie m'a dit il faut à tout prix que tu interviewes Xavier. Parce que Xavier, surtout en rapport avec le Salon du Livre, tu es toi-même éditeur, c'est
ça ? Moi, je suis éditeur de livres jeunesse. Je m'occupe principalement de romans pour ados. Mais je fais aussi des albums. Enfin, je publie pas mal de romans différents. Mais c'est vrai que je suis axé romans ados. Et donc, je suis souvent avec des enfants, avec des ados. C'est vraiment chouette, quoi.
Mais tu dis,
c'est un métier qui m'intéresse.
Tu dis roman ado, mais si j'ai bien compris, on doit quand même quelques...
Young adults.
Oui, voilà. On doit quand même quelques gros succès en France. C'est toi qui as importé Hunger Games, c'est
ouais,
ça,
c'est par ça, exemple ? Oui, c'est ça. C'était un des premiers bouquins que j'ai acheté. J'ai eu pas mal de chance. Puis comme toujours, dans ces moments-là, il y a énormément de chance parce que c'est des livres que tu achètes avec autant de passion que plein d'autres livres qui ne marchent pas forcément. Mm-hmm. Puis t'en as un qui est adapté, qui devient un espèce de phénomène qui te dépasse complètement. Mais quand tu l'as acheté, t'es passionné par le livre. Hein. T'es sûr que ça va toucher des gens, mais tu... Je peux jamais prévoir que ça soit un tel phénomène, quoi. Après, c'est vrai que moi, ça a marqué mon début de carrière, en tout cas, ça c'est certain, et même ma carrière tout court, quoi. Maintenant, moi, je m'éclate à publier des romans français en ce moment, avec des auteurs passionnants. Et là, c'est un autre travail que la traduction. Je continue à faire de la traduction, mais être à la source de l'écriture, rencontrer des personnalités, ça c'est génial. Hein. Moi, je m'éclate hein, vraiment.
Trop bien. Ouais. On reparlera de ça un petit
peu
plus tard.
Mais c'était pour...
Oui, c'est trop bien. Vraiment, t'as deux enfants ?
Alors, j'ai deux enfants, ouais. J'ai deux filles.
Bravo.
Une grande, entre guillemets, parce que c'est elle qui le dit, qui a 6 ans et demi, donc une pré-ado, quoi. Et une autre qui a 4 ans bientôt.
D'accord. Et Lucie me disait, il faut que tu interviewes Xavier parce que Xavier, c'est budget illimité sur les bouquins.
Ah, c'est clair, ouais. En fait, moi, j'ai été élevé dans un livre. Hein. J'avais pas la télé, tout ça. Donc, je suis passé, moi, tout mes.
Bonjour les gens.
Bonjour les gens.
C'est très
étonnant d'avoir des gens qui tournent autour, mais c'est drôle aussi. Ouais, moi, j'ai grandi avec des parents qui sont profs de lettres, qui sont vraiment passionnés de littérature. Donc, vraiment, j'ai toujours eu plein de bouquins autour de moi, de moi, toujours. Ouais. Et puis, mon meilleur pote, son père était le libraire de Libre Enfant, qui était une librairie historique, qui est une librairie, il y a des gens qui acquiescent, qui est vraiment, lui, il était, je crois qu'il était président des sorcières, qui est un grand groupement de libraires. Et donc, son père tenait cette librairie. Il nous avait aménagé un petit coin lecture. Donc, le mercredi après-midi, le samedi, on passait notre temps là-bas. C'était nos premiers boulots. C'était de biper les codes barres des bouquins pour l'inventaire, par exemple. Et donc, moi, j'ai toujours été entouré de livres. Et donc, mes parents, il y avait un budget illimité sur les livres jeunesse. Et donc, c'est naturel pour moi. C'est-à-dire que mes gamines, elles tutoient les libraires des deux librairies qui sont à côté de chez moi, qui sont 1000 pages, Vincennes et Folie d'encre à Montreuil. Elles les connaissent très bien. Ils leur conseillent des livres spécialement pour elles. Ils se trompent quasiment jamais. Et pour elles, la librairie, c'est leur... Enfin, ma fille m'a dit, oh, mais c'est ma librairie, en fait. Mm. Elle a sa petite place. Si quelqu'un s'assoit là, elle fait une crise. Et ils font un concours de chaussettes, par exemple, hein, avec un des libraires, Hugo, de 1000 pages, qui a les chaussettes les plus originales, avec ma fille.
OK.
Voilà, donc non, c'est la librairie. De toute façon, on y va, je pense, au minimum une fois par semaine, et c'est souvent deux. On y passe comme quand on passe à la boulangerie, quoi, un peu.
OK. Bon, on reparlera un petit peu après des lectures que tu... Mm-hmm. que tu préfères pour tes enfants d'une manière générale. Comment t'as décidé d'être papa? Quel est ton parcours de daron?
Bah, mon parcours de daron, moi, j'ai toujours eu envie d'avoir des enfants. J'adore les enfants. Tu sais, je suis le genre de personne, dans les mariages, on te dit, tu peux t'occuper un peu du petit, et puis ça se passe bien. Et puis moi, ça me permet d'éviter les conversations pas toujours marrantes des adultes. Donc, je vais jouer avec les enfants. Et j'ai toujours fait ça, en fait. On m'a toujours filé les bébés. Alors, comme j'ai une voix grave qui vibre, en fait, les bébés qui pleurent, ça les endort.
Ah.
Ça les calme, en tout cas. Donc, j'ai toujours beaucoup aimé les enfants et notamment les petits. Et mon parcours de daron, fallait d'abord trouver la bonne personne. C'était quand même la base. Et une fois que ça a été naturel, en fait, puis on s'est rencontrés, on avait déjà à peu près 30 ans. Donc, à un moment, faut pas trop traîner non plus. Et voilà, c'est fait très naturellement. C'est pas été conceptualisé, tu vois, ni un chemin de croix, ni ça a été très facile. Et il était hors de question d'avoir qu'un enfant. Moi, j'ai deux frangins. J'adore les fratries. Je trouve que c'est hyper important. Après, c'est mon choix à moi. Hein. Je juge personne qui veut n'avoir qu'un enfant, mais. Et voilà, j'en voulais deux. Et il se trouve que moi, ce qui est très drôle, c'est que j'étais persuadé d'avoir des garçons. En fait, moi, dans ma famille, les aînés de chaque fratrie depuis 5 générations n'ont que des garçons. Donc, moi, je suis l'aîné, donc j'allais avoir un garçon, c'était logique. Et bam, je me retrouve avec deux filles. Donc, je suis à la fois le plus heureux du monde. Mes parents sont hyper contents. Donc, mon parcours de daron, c'est ça.
OK. Comment ça s'est passé, la grossesse, de ton côté?
De mon côté, c'était... Comment s'est passée la grossesse? Moi, ma nana, elle a eu une grossesse hyper, entre guillemets, facile. Alors, ouais. C'est facile pour moi de dire ça, mais c'est ce qu'elle dit elle-même. C'est-à-dire qu'elle a pas eu de nausée, elle a eu de la fatigue, si tu veux, mais elle a eu aucun problème qu'on entend souvent. La grossesse, l'accouchement, tout s'est super bien passé. Donc moi, de mon point de vue, c'était un moment génial parce qu'on attendait un enfant, tout se passait bien. Et il fallait construire un peu l'avenir. Et moi, c'est tombé au moment un peu près d'Hunger Games et tout ça. Donc aussi, les soucis financiers étaient mis de côté pendant un temps. Et donc, tout s'organisait bien, en fait. Donc ça tombait très bien. Je peux dire que ces périodes-là ont été vraiment assez sereines, quoi. Moi, je suis un peu angoissé comme mec, donc la sérénité, c'est chouette.
Comment s'est passée la première rencontre avec ta fille?
Avec ma fille, moi, c'est une émotion bouleversante, quoi. C'est-à-dire qu'il y avait une évidence soudaine que toute ma vie tournerait autour d'elle. Mais dans la seconde où je l'ai eu dans les mains, c'était... J'ai eu les larmes aux yeux, mais d'une émotion plus forte que ce que j'imaginais, en fait. Parce que comme j'étais serein et préparé et que je connais bien les enfants, un bébé, ça me fait pas peur, en fait. M'occuper d'un bébé, le changer, tout ça, ça m'a jamais inquiété, même avant d'en avoir. Par contre, quand c'était la mienne, c'est indescriptible, en fait. En fait, ce qui est indescriptible, c'est ce côté, c'est une évidence. Toi, là, je te parle tout de suite, tu es une personne, et je suis responsable de toi, en tout cas, quelques années, et t'es la personne.
Toute la vie.
Voilà. Et t'es la personne la plus importante que je connaisse, en fait. Et ça, c'est cette émotion qui m'a complètement bouleversé, ouais. Et puis ça continue, enfin, ça ne s'arrête jamais. Enfin, si, il y a des moments où tu as envie de les jeter par la fenêtre, mais c'est rare, quoi, quand même, par rapport à l'ensemble du bonheur que tu ressens. Et en fait, cette exclusivité, cette évidence, je la ressens encore tous les jours. Ça n'a pas quitté cet énorme sentiment, source de tous ces sentiments-là, aujourd'hui encore, chaque jour, quand je leur lis des histoires, quand je passe du temps avec elles, quand j'ai envie de leur transmettre des choses, quand je les pousse à aller un peu se mettre en danger, entre guillemets, aller vers l'inconnu, c'est ça.
Ça se concrétise comment, pousser tes filles à se mettre en danger?
En fait, par exemple, la piscine, voilà. Ouais. Mes gamines, elles aiment bien l'eau. Et il y a des gens, tu vois, tu pars en vacances avec des gens, il y a une piscine, tout le monde est super stressé. Donc moi, en fait, je leur ai dit, on va essayer d'aller chercher des trucs sous l'eau. Donc je les pousse un peu, tu vois, quitte à aller avec elles dans l'eau. Enfin, ouais. Je vais avec elles sous l'eau, je les pousse. Et au début, les autres adultes ont un peu peur. Je trouve que c'est un peu, ils sont petites, quoi, pour faire ça. Les gamines, elles adorent. Je les pousse un peu dans leur retranchement. On va faire un petit camping sauvage une nuit. Ça leur fout un peu les boules, mais en même temps, je suis là, donc. Tu vois, c'est un peu aventureux ou plein de choses comme ça au quotidien que j'aime bien faire parce que j'ai pas envie de les prendre tout le temps pour des bébés. Donc j'aurais jamais parlé comme des bébés, tu vois. Ouais. Et on a tout de suite un dialogue. Après, elles sont adaptées à leur âge, évidemment, mais on partage des trucs. Elles vont écouter La Reine des Neiges comme tous les enfants, mais à côté de ça, on va aller voir des concerts le dernier qu'on a fait, un concert de reprise de Brassens par une équipe complètement cinglée avec Loïc Lantoine, qui est un chanteur français que j'adore, mais c'est pas pour les enfants, tu vois.
Ouais.
Mais ma fille, c'est son plus grand souvenir actuellement. Donc c'est ça, tu vois, de sortir un peu des sentiers battus pour leur donner autre chose que ce qu'on attend d'un enfant tout le temps, tu vois. Et il s'agit pas de les pousser à la performance, quoi. C'est plus, allez, on tente un truc, quoi. Et ça m'éclate.
Et comment tu dis qu'elles le vivent bien, enfin.
Ah bah oui. Mmh. Bah après, il faut pas pousser trop fort, hein, mais elles le vivent bien. Et puis en fait, je pense que ce qui est hyper important et que je ressens tous les jours, c'est leur donner confiance, leur donner la capacité de se rendre compte que elles peuvent y arriver. Mmh. Elles peuvent résoudre un problème par elles-mêmes, elles peuvent un conflit à l'école, pas à toi intervenir, mais leur donner les outils pour qu'elles s'en sortent. Et dans le quotidien, quand tu les pousses à faire quelque chose, par exemple, ce concert, il a duré 3 heures, il devait durer 1 heure. Ma fille, au bout d'un moment, elle s'endort. Et puis à un moment, elle entend une chanson dans son demi-sommeil qu'elle connaît. Parce qu'elle écoute Brassens. Bon, elle adore Brassens.
Ta fille de 6 ans écoute Brassens.
Elle la connaît par cœur. Elle connaît par cœur une bonne partie du répertoire de Brassens.
Pas mal.
Et oui, mais tu vois, c'est parce que ça tourne dans la maison. Donc ouais. Les enfants, ils impriment. Ouais. Et c'est très drôle d'entendre un enfant chanter quand on est con. Ouais. Moi, ça me fait beaucoup rire. mais en fait, voilà, j'ai envie de lui dire à chaque fois, ça, tu vas y arriver. Et j'ai confiance en toi. Donc, je vais te proposer quelque chose qui n'est pas forcément attendu d'un enfant, mais j'ai confiance en toi et tu vas y arriver. Et ça se passe bien. Et elle, je pense que ça renforce sa confiance en elle. En tout cas, c'est comme ça que je vois l'éducation que j'ai envie de leur donner.
C'est un truc que t'es parents t'ont apporté?
Non, pas spécialement. Pas spécialement. Enfin, oui, je pense en partie. Et on n'en a jamais parlé de ça avec mes parents. Mais c'est pas la même génération non plus, tu vois. Donc, oui, il y a sûrement un peu de mes parents. Ouais, mais là, c'est vraiment un truc que j'ai réfléchi moi-même. Puis, tu vois, je me suis beaucoup interrogé sur l'école, sur la transmission, en fait. Justement parce que dans ma famille ou dans celle de ma nana, on n'est pas forcément à la transmission, tu vois, générationnelle, d'où tu viens. Les enfants, ils se posent beaucoup de questions sur c'est qui mes ancêtres, en fait. Donc là, on a un peu bossé là-dessus, par exemple. On a fait un arbre généalogique, on a fait parler les grands-parents qui n'avaient pas forcément tout le temps envie de parler, mais c'est marrant. Et attends, pourquoi je te disais ça? Redis-moi ta question.
Je te parlais de l'éducation, en fait,
ouais,
de
alors,
tes parents.
Et... En fait, non, donc on s'est posé beaucoup de questions. Et en fait, nous, quand on est arrivé on habite à Montreuil, on est arrivé en milieu d'année, et il n'y avait pas de place dans les écoles, en fait, et dans les crèches. Et il y a une place qui s'est ouverte dans une école Montessori. Et moi, j'en avais jamais trop entendu parler. Enfin, j'avais entendu parler de Montessori, mais je m'étais jamais intéressé à ça. Et c'est une vieille école qui est là depuis une trentaine d'années et qui est vraiment fantastique parce que, tu vois, t'as des lapins dans la cour. Enfin, t'as l'impression d'être chez ta grand-mère et les gens sont géniaux, quoi. Et donc, on s'est dit, tiens, on va essayer. Puis, on s'est intéressé au truc. Et puis, j'ai eu des révélations chaque jour sur la façon d'apprendre dans cette école-là. En tout cas, je peux pas parler de toutes les écoles Montessori, mais cette école-là, ça m'a bouleversé, en fait. Et donc, je me suis mis à m'interroger, tu vois. Et quand notre seconde fille est née, ma première fille, elle a eu un passage à vide, comme beaucoup d'enfants. Maman, s'il te plaît, tu peux rentrer dans ta maison avec ton bébé, là, on t'a assez vu. Mais des trucs bien costauds, quoi.
Ouais.
D'un enfant de 3 ans qui n'a pas le filtre,
qui pas,
tu vois.
Et puis qui n'a pas envie.
Qui n'a pas envie du tout d'avoir une petite sœur, ouais. Mm. Et même si elle a envie, en fait, mais tu vois, c'est voilà. Et là, ça a été très dur, ce passage-là. Et on nous a parlé d'un atelier qui s'appelle, c'est une méthode qui s'appelle Faber et Maslisch. Mm. C'est une méthode de parentalité, d'aide à la parentalité, en fait. Et il y avait un atelier qui s'appelait Frères et sœurs sans rivalité. Et donc, je me suis intéressé à ça. Et dans cet atelier, on nous a beaucoup parlé de, justement, donner confiance aux enfants, leur prouver qu'ils peuvent, ils ont le droit d'exprimer, par exemple, la haine qu'ils ont de leur petit frère ou de leur petite sœur. Mm. Avec les mots, mmh. avec les gestes, enfin, tu vois, mmh. apprendre à travailler comme ça avec ton enfant. Parce que je dis travailler parce que c'est vraiment un travail d'équipe, en fait. Mmh. Et c'est ce que je lui dis souvent. Je dis là, attends, on a un souci. Par exemple, on est en train de se friter parce que le matin, elle veut pas s'habiller. Et je dis là, on a un souci. Mais en fait, on est une équipe. Donc moi, j'ai besoin de toi pour avancer. Enfin, ça marche pas toujours. Hein. Mais quand même, souvent, quand tu commences à l'inclure dans la problématique et pas dire, allez, grouille-toi, moi, je suis en retard au boulot. Mmh. Là, on a un souci, on est en équipe. On avance, toi, tu dois aller à l'école, moi, je dois aller au travail. Alors, tu m'aides. Ben, ça déclenche des choses. Mmh. Et je le vois. Enfin, c'est visible physiquement, quoi. Alors, elle se relâche, elle se sent plus prise pour un machin contre un bal à toute vitesse. Mmh. Avec le matin, c'est du délire. Le nombre d'injonctions qu'on leur fait. Mmh. Comment tu veux qu'ils réagissent? On leur dit à la fois qu'il faut se grouiller, qu'il faut être sage, maman est pressée, à cause de toi je suis en retard. Enfin, pas, moi je dis maman, papa est pressé, à cause de toi je suis en retard. Tu vois, et donc, ils peuvent pas réagir autrement qu'en se bloquant, en se braquant. C'est normal. Enfin, on nous ferait ça, ce serait l'horreur. Et c'est ça que j'avais bien aimé dans cet atelier, c'est qu'on nous mettait en situation. Les parents jouaient les enfants. Et donc, tu te mettais en situation où quelqu'un te balançait 10 000 injonctions, parfois contradictoires en même temps. Ouais. Forcément, tu ressens un truc, tu te dis, mais ça peut pas marcher. Et donc, tu vois, toutes ces techniques, ça m'a vachement intéressé. Alors qu'au début, je me disais, oh là là, les trucs de, tu vois, entre gros guillemets, oh, les trucs de hippie, les trucs de maman, un branché bobo, machin, ça va me saouler. Et en fait, non. Et donc ça m'a bousculé dans mes croyances de vieux mec un peu débile. Et aussi, ça m'a révélé des choses.
Te juge pas.
Ouais, non, mais
pas dur.
Non, parce que c'était le mois d'avant. et en fait, je me suis dit, ben, en fait, oui, moi, j'ai envie de ça. Et je vais construire aussi ma vie en fonction de ça.
Oui, c'est ça.
Et tu vois, moi, par exemple, moi, je suis éditeur. Il se trouve que je suis freelance, en fait. C'est-à-dire que je travaille uniquement pour un groupe, en ce moment, pour Pocket Jeunesse, et une maison d'édition adulte, Fleuve Noir, et un peu 10-18 aussi. Et Pocket, d'ailleurs, aussi. Mais c'est le même groupe. Donc, je suis freelance, sans être complètement freelance, oui. Tu vois. Mais j'ai pas pris les options qu'on m'a offertes chez d'autres éditeurs aussi, de salariés. Parce qu'aujourd'hui, être salarié en France et dans plein d'autres pays, c'est bah, t'as 5 jours de bureau avec des horaires précis et tout. Déjà, moi, dans mon boulot, c'est un peu absurde parce que je fais énormément de travail le soir sur les manuscrits et tout. Mmh. Donc, les horaires de bureau, ça n'a pas beaucoup de sens. Mais surtout, par exemple, moi, le mercredi après-midi, je m'occupe de mes enfants. Mmh. Je bosse le matin, je bosse après le dîner. Je me suis organisé comme ça. Donc voilà, je fais le même nombre d'heures. Mais par contre, le mercredi après-midi, je suis avec mes gamins. Et ça, c'est pas négociable. Donc, tu vois, j'ai décidé d'organiser ma vie en fonction de la façon dont, au maximum, je peux m'occuper de passer du temps avec mes filles, quoi.
Et ça, c'était suite à... Enfin, t'as eu ces révélations-là, entre guillemets, suite à la découverte du système Montessori,
non,
c'est ça ?
Non, pas du tout. Okay. En fait, c'est plus pour te dire plutôt des façons d'aborder et de parler à ton enfant un peu différentes de ce que j'imaginais, moi. Et qui me sont utiles au quotidien, tu vois. Et je suis pas ayatollah, enfin, tu vois. Il y a des jours, je suis pas du tout Montessori. Je suis hyper malveillant. Mais
il faut parfois.
Mais ouais, non, mais tu peux pas être. Mais oui. En fait, ce qui m'intéressait en Montessori, c'était pas ce côté un peu qu'on imagine parfois, liberté totale. Ouais. Les gamins, ils sont hyper cadrés. Hein. Mm. C'est extrêmement sérieux et extrêmement intelligent. Moi, ce qui m'a intéressé, c'est par exemple, moi, j'ai eu un blocage total en maths à l'école, à cause d'une prof qui me gardait pendant les récrés parce que j'arrivais pas à faire des divisions. Résultat, j'ai jamais réussi à poser une division. Jamais. Et là, la maîtresse de ma fille, elle me montre comment ils bossent. Et par exemple, pour pas marquer l'erreur, elle avait juste un truc de sable et ils écrivaient les lettres ou les divisions dans du sable.
Ah.
Et après, bah, si ça marche pas, tu l'effaces. Tu secoues le truc en sable et ça a disparu. Ton erreur n'est pas marquée. Mm. Et ça, je me disais, mais ouais, c'est tellement évident et tellement simple à appliquer. Et tu vois, ça c'était des révélations pour moi. Ma fille, elle est dans ce système, donc c'est lui. Mais moi, je me suis dit, ah ouais. Donc, j'ai eu des révélations, si tu veux, sur la façon de parler aux enfants et d'aborder les choses grâce à ces méthodes-là. Puis j'ai beaucoup discuté avec les instituts, je me suis beaucoup impliqué dans l'école. Par contre, le fait de passer du temps avec mes enfants, non, ça, c'est juste de l'amour et de la volonté d'être père à 100%, tu vois. Et, enfin, au maximum de ce que je peux faire. sans non plus me faire complètement manger, tu vois. Mais,
ouais, ouais, c'est ça.
Mais ça, c'était juste une volonté perso. C'est pas en rapport avec, avec une méthode. C'est moi. Enfin.
Ouais, ouais, non, mais je comprends. C'est un truc que t'as. Comment dire? C'est un chemin que t'as décidé à un moment donné par rapport à. En voyant tes enfants grandir ou c'est.
À la naissance.
Tout de suite.
C'est quand je te parle d'évidence à la naissance.
Ouais.
C'est une évidence que ça devient ma priorité. Et je m'y attendais pas. Hein. C'est vraiment un truc. Enfin, je savais que j'allais être impliqué à fond, mais c'était plus. Ah ouais, en fait, non seulement je vais être impliqué, mais ce machin-là dans mes bras, c'est le plus important. Mm. C'est pas histoire, je veux pas me nier, hein, je veux dire, je fais des choses par ailleurs pour moi, mais ça, ça va être le centre, en fait. Et ça l'est toujours. Et tu vois, ça m'a permis de faire des choix dans ma vie, des choix professionnels profonds, parce qu'on m'a proposé carrément de diriger des maisons d'édition, tu vois, des trucs. Et en fait, le choix a été quand même en fonction de ça. C'est-à-dire, non, je veux pas... rentrer tous les soirs à 9h30, pas avoir le temps de lire une histoire, je veux pas ne pas pouvoir prendre mon mercredi de temps en temps pour m'occuper d'elle, parce que j'ai trop de responsabilités, parce que je dois manager des gens, c'est pas possible en fait.
Et ça a jamais été une frustration pour toi ?
Non, parce que en fait là, les bouquins que je publie, j'en suis hyper fier.
Ouais.
Je te parlais de Vincent Vimino, c'était une rencontre incroyable, un auteur avec qui on a sympathisé, avec qui on a travaillé pendant un an d'arrache-pied sur un bouquin. Et c'est génial. Et je dirigerai une maison, j'aurai sans doute moins les mains dans le cambouis. Moi, ce qui m'intéresse, c'est travailler les textes. Donc voilà, mais c'est chouette de voir à quel point ça modifie tes choix, en fait.
Pour revenir justement à la lecture, tu me racontais un petit peu au départ que tu avais grandi, toi, dans la lecture. Ça a été un choix conscient, en fait, de ta part, à un moment donné, de te dire, je veux faire en sorte d'offrir la même éducation à mes enfants.
Ouais, en fait, je me suis même pas posé la question. C'est-à-dire que chez moi, il y a toujours des bouquins qui traînent, BD, jeunesse, adulte, tout le temps. Même avant que j'ai des enfants, je lisais des albums jeunesse. Donc, il a jamais été question qu'il n'y ait pas de livre. Après, c'est la place qui peut limiter. Mais en fait, la place, tu l'as fait. Et puis, tu peux faire tourner, en fait, les livres. C'est-à-dire que ton enfant grandit, il y a des livres que tu peux mettre dans des cartons à la cave ou donner à l'école, par exemple. T'en gardes certains parce qu'il y en a des particuliers, mais tu vois, il y en a qui tournent. Donc, tu remplaces certains livres par d'autres livres et voilà, ton enfant grandit avec ses livres. Ça a été une évidence aussi, quoi. Je me suis jamais... En fait, je passe tellement de temps en librairie que de toute façon, ma fille allait suivre. Après, peut-être qu'elle n'aimerait pas les livres. Ça arrive quand même pas si souvent quand tu lis des livres à des enfants qu'ils aiment pas ça. Hein.
En tant qu'adulte, oui.
Ouais, ouais. C'est quand même... Enfin, je constate autour de moi que... moi, ça m'étonne toujours, tu vois. Par exemple, j'ai un ami, une connaissance, qui me dit, mais comment tu fais, toi, tous les soirs, tu lis une histoire à ton gamin ? Je dis, c'est assez simple, tu te poses sur le canapé ou dans son lit et puis tu ouvres un livre et ça prend entre 10 minutes et une demi-heure selon la taille du livre, mais ça me paraît pas très compliqué. Je dis, j'ai pas le temps. Je comprends pas en quoi ça peut être une difficulté. Sauf si tu bosses jusqu'à 23h tous les soirs, mais sinon, lire une histoire à son gamin. On sait, à plus, on est vachement informé en ce moment, tu vois, sur la lecture par rapport aux écrans et tout. On sait à quel point c'est important de lire des livres aux enfants, que ça développe leur vocabulaire, que le vocabulaire, c'est la base de l'accès au raisonnement. Plus t'apprends de mots, plus t'es... Enfin, tu sais, on sait qu'un enfant qui détient tant de mots, il a plus de chances qu'un enfant qui en détient moins, enfin... Donc il faut pas... Enfin, c'est un truc indispensable et tellement facile, quoi. Et pour le coup, accessible à tous, on a une telle chance en France, c'est-à-dire même si t'achètes pas les livres, il y a les bibliothèques de dingue. Nous, on habite à Montreuil, la bibliothèque, elle est incroyable. Comment tu peux te dire c'est compliqué de lire ? Après, il y a l'autre partie des gens qui n'ont pas été habitués et qui se disent c'est difficile. Ça, je comprends.
Ouais.
Mais quelqu'un qui est, on va dire, du même milieu socioculturel que moi, qui me dit c'est compliqué parce que comment tu fais pour trouver le temps ? Ça, je ne l'accepte pas. Enfin, tu vois, je vais pas lui dire, hein, c'est son problème, mais ça me rend dingue. Parce que tu trouves le temps de lui passer un dessin animé, tu trouves le temps de, je sais pas quoi, mais 10 minutes de lecture, mon Dieu, c'est pas grand chose, quoi.
Comment tu gères aujourd'hui les écrans, justement, parce que c'est tout un truc aussi.
Bien sûr.
Il y a une forme de concurrence. Vous avez.
C'est une énorme concurrence. Nous sur les lecteurs, c'est une énorme concurrence, notamment Netflix, qui pose un problème maintenant. Enfin, vraiment clairement sur le temps disponible pour du bien culturel, quoi. Mais à la maison avec mes filles, tu veux dire. En fait, moi, je suis pas ayatollah. C'est-à-dire que elles regardent des fois des dessins animés, tout ça. Simplement, il y a rien en accès libre, jamais. C'est des séances courtes. On regarde donc des dessins animés que je choisis, mais je leur laisse quand même le choix entre plusieurs. Si possible, on les regarde ensemble. Après, il y a l'option, il y a la version train. Là, dans le train, c'est un peu plus style, mais c'est quand même moi qui les ai téléchargés et choisis.
Ok. Qu'est-ce que tu leur télécharges à tes...
Oh, ça, c'est vraiment de tout. Hein. Les grands Disney, ouais. Des Tex Avery, des machins comme ça.
Ah, Tex Avery, c'est...
Ah ouais, ouais,
oui,
les,
c'est
les,
niche.
Ouais, ouais, les vieux Bip Bip et Coyote, tous ces trucs-là, ouais, ouais, ça, elles adorent. Et puis, ouais, enfin, tous les dessins animés que j'ai adorés, moi, en fait, c'est hyper égoïste. Ouais, j'ai pas évité La Reine des Neiges, hein, on l'a eu. Hein, mais, et puis, là, avec la grande, ce qui est super intéressant, c'est que, tu sais, en Montessori, elle est en Montessori, donc en primaire,
ouais.
Ils font beaucoup d'exposés, des recherches, dès le CP. Et en fait, là, on regarde C'est pas sorcier, des documentaires animaliers, des documentaires nature sur les chenilles qui se transforment en papillons et tout ça. Moi, ça m'éclate aussi. Et c'est vachement chouette. Donc, mais en fait, pour les écrans, j'essaie de sacraliser le truc, en fait. C'est-à-dire que, sacraliser, c'est un bien grand mot, mais juste, c'est pas anodin. C'est-à-dire, on va regarder un truc, on se pose ensemble, si possible. Si j'ai pas le temps, je la laisse toute seule, mais on se pose au moins un petit peu ensemble et on prend le temps de ce truc-là. On se zappe pas de l'un à l'autre et ça sera tout. Et après, on fera autre chose. Tu vois, c'est surtout vraiment, je pense que l'accès libre, c'est n'importe quoi. Enfin, pas avec des enfants de 3, 4 ans, 5 ans. J'ai un copain, son gamin, il mange devant sa tablette. C'est absurde, quoi. Et en fait, mais je les prive pas de ça. Je veux dire, mes gamines, elles savent se servir de mon téléphone portable parce que c'est tellement intuitif. Et je vais pas les empêcher de faire une petite vidéo pour envoyer à leurs grands-parents. Donc les écrans, c'est très limité, mais c'est présent. Et on regarde des vidéos de danse avec ma fille, on regarde des trucs. C'est juste que je suis là, je choisis.
Tu filtres un peu, quoi.
Je filtre beaucoup.
Beaucoup.
Ouais.
Tu filtres tout, d'ailleurs.
Ouais, je suis horrible.
Mother's Day is around the corner. Find the perfect gift for the mom in your life with a stunning piece of jewelry from Blue Nile. From timeless pearls to dazzling gemstones, Blue Nile has something she'll adore. Need it fast? Most items can ship overnight. Plus, enjoy guaranteed free shipping and returns. Don't miss our special Mother's Day deals. Save big on the season's most beautiful trends. For a limited time, get up to 50% off by going to BlueNile.com. That's BlueNile.com.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Non, mais c'est vrai, en fait, pour moi c'est hyper important. C'est-à-dire que j'ai déjà constaté, je vais chercher ma fille chez une copine, elles sont devant la tablette, déjà ça m'agace parce que tu vas pas chez une copine pour pas passer ton après-midi devant la tablette, mais elles sont devant la tablette et elles regardent un truc qui n'est pas adapté aux enfants du tout. Parce qu'il n'y a même pas le filtre parental, tu vois, les parents ils ont filé leur tablette parce que c'est une nounou en fait. Et ça me rend, met en rogne, et je le dis, maintenant je le dis, au début j'osais pas trop, maintenant je le dis aux parents, je dis en fait si ça doit se passer comme ça, moi elle vient plus chez vous en fait. Mais vraiment. Hein.
Et comment ils le prennent ?
Mal. Mais à un moment, tu vois, ça, quand je te parlais des priorités, ça en fait partie.
Ouais.
C'est-à-dire qu'à un moment, si je sens que ma fille est en danger ou que je suis pas d'accord avec la façon dont ça se passe quand elle va chez tel ou tel ami, eh ben je le dis. Et tant pis, on le fait pas. Elle a d'autres amis. Enfin, tu vois, vraiment. C'est ou alors on l'invitera nous.
Ouais.
Et ça s'est passé. Tu vois, il y a une de ses copines. Je veux plus qu'elle aille chez elle. Et par contre, elle vient chez nous. Parce que je suis pas serein, et pas que moi, hein. C'est un truc un peu général, mais tu vois, l'écran, moi si ma gamine de 6 ans, ou même de 3 ans, elle est devant une tablette, sans que personne contrôle ce qu'elle regarde, mais même les pubs, tu vois les pubs qu'il y a sur YouTube, des fois dans un dessin animé, t'as une pub pour un jeu vidéo de guerre, bah non, je suis pas d'accord. On sait très bien que les gamins, il y a des gamins fragilisés par les infos. Leurs parents, ils ont un méga écran dans la pièce principale et ils regardent les infos. Puis les gamins jouent devant. Les gamins, ils retiennent. Mmh. Ils entendent. Après, moi, ma gamine, c'est arrivé une fois, elle me dit « Ouais, j'ai entendu à la radio dans la voiture de papy, il y a eu un enfant, son père, il l'a tué. » Tu vois, il y aura le temps pour affronter cette réalité-là. Oui. Mais à 6 ans, t'as peut-être autre chose à faire que d'entendre des histoires de viol que les médias diffusent tout le temps. Donc ça aussi, voilà, un autre truc auquel je suis hyper attentif, c'est ça. J'ai une copine psy, en fait, qui m'a... pédopsy, en fait, qui m'a expliqué, attention, les enfants qui sont curieux, tu laisses pas trop traîner de journaux, tu vois, c'est parce qu'ils vont les lire. Mmh. Et ils sont pas préparés, ils sont pas armés émotionnellement. Donc fais gaffe, tu mets pas la radio tout le temps quand ils sont là, parce que on peut pas filtrer. Alors tu peux choisir des radios où ça va aller bien, mais ouais. Et je pense que c'est hyper important. Après, j'ai l'impression de dire que je suis un super héros des parents, mais en fait, je suis pas infaillible. Tu vois, il y a plein de, tu fais plein de conneries aussi. Hein. Ouais. Mais disons que là, je te donne les axes en fait de ce que j'essaye de faire avec ma nana. On essaie vraiment de d'être un peu attentif à ça, quoi.
Et elle te suit, elle, sur
ah bah, elle
sur
est même méga moteur, ma nana. Okay. Ma nana, en ce moment, la reconversion pour être instite dans une école Montessori.
Ah.
Mais ouais, enfin, c'est un truc commun. On l'a fait ensemble. C'est pas du tout quelque chose qui est venu que de moi, quoi. Pas du tout, du tout.
pour reparler de la lecture. Mm-hmm. Aujourd'hui, ta petite, enfin ta grande, est en train d'apprendre à lire.
Ouais,
c'est ça, elle est en CP.
C'est ça.
Comment ça se passe?
Alors c'est très très drôle. Ouais. Parce qu'évidemment, elle lit des livres. Enfin, je lui lis des livres depuis très longtemps.
Ouais.
Alors, comme tous les parents, t'as l'impression que ton gamin en avance. Tu lui donnes des livres pour le plus grand, machin. Et ce qui est très drôle, parce que j'en discutais avec un pote libraire, la phrase principale qu'ils entendent, c'est « Ouais, enfin là, vous me donnez un livre pour son âge, en fait, elle est en avance. » Tous les enfants sont en avance. Mais
dans les yeux de leurs parents.
Voilà, c'est ça. Mais en fait, moi, ma gamine, donc elle veut des livres avec beaucoup de textes, donc depuis toujours. Ce qui est compliqué, par exemple, c'est de faire en sorte qu'elle ait la satisfaction du gros bouquin, mais qu'émotionnellement, ça soit pas un bouquin pour trop grand, parce que là, elle est moins armée. Tu vois, elle a la compréhension du vocabulaire, elle parle bien et tout, donc ça va. Mais par contre, faut faire gaffe que tu lui donnes pas un bouquin pour trop grand, parce que ça peut la choquer, tu vois. Ouais. Et j'ai déjà fait l'expérience.
Après, pour elle veut pas des livres de bébé, entre guillemets, trop illustrés, etc.
Ouais, c'est ça. Ah, okay. Mais attention à ce qu'il y a dedans. Tu vois. C'est toujours, les enfants comme ça, c'est un peu compliqué parce que tu vois, les enfants qui parlent très bien, tu leur parles un peu comme des adultes, mais des fois, il faut faire gaffe, faut pas oublier qu'ils sont petits. Mm. Et ça, c'est un truc de tous les jours, quoi. Mm. Mais en fait, là, sur la lecture, c'est donc très marrant. Donc, comme elle baigne dans des bouquins, forcément, très vite, elle s'est intéressée aux lettres, elle a commencé à bien se démerder en maternelle, tu vois. Donc, en deuxième année de maternelle, c'est la maîtresse qui me dit, devant elle, « Ah bah elle, à la fin de l'année, elle va lire sans problème. » Et elle entend ça. Mm. Et ça te donne des leçons pour plus tard aussi, ça, je trouve. À partir de ce jour-là, elle a refusé de lire. Complètement.
Ah ouais ?
Ce jour-là, c'était clair et net. Je ne lis pas. Donc, je me suis demandé pourquoi, tu vois. Et puis là, on arrive au CP. Elle veut toujours pas faire les exercices de lecture. Ça la saoule. Elle veut pas entendre parler de lecture. Bon. Par contre, faut lui lire des livres. Des livres. Et je lui dis, mais tu vois, tu pourrais lire toute seule. Mmh. Elle dit, mais c'est justement ça. Si j'apprends à lire, tu vas plus me lire de livres. Ah, d'accord.
J'aurais pu mon moment avec mon papa.
C'est ça, mais c'est ça. Et en fait, je lui ai expliqué que moi, mon père, il m'a lu des livres, tu vois, il m'a lu genre Yvan Noé et tout, j'avais plus de 12 ans, tu vois. Donc, en fait, on peut lire longtemps. Et puis même adulte, on peut se lire des livres, pourquoi pas, tu vois. Donc, il a fallu la rassurer et là, ça a débloqué un truc. Par contre, sa petite sœur, qui a eu moins ses moments privilégiés, puis c'est la deuxième, elle a bientôt 4 ans, donc elle est en première année de maternelle et elle lit déjà des mots. Et elle est pas du tout bloquée. Et ce qui est bien, c'est que ça donnait un petit coup d'aiguillon à sa sœur qui dit « Attends, ma petite, là, elle va pas commencer à lire avant moi, quoi. » Donc, c'est assez marrant, tu vois. Et donc, sur la lecture, en fait, on est détente, quoi. Enfin, on va pas les forcer. Moi, j'aimerais bien qu'elle lise parce que c'est une aventure tellement géniale. Mm-hmm. Mais après, c'est vrai que quand t'as un papa ou une maman qui te lit des livres énormes, passe une heure le soir à te lire des livres, t'as pas tellement besoin d'apprendre à lire. Donc, tu vois, ce que j'essaie de faire, c'est par exemple, on lit Yakari.
Ouais.
Et Yakari, je lui fais lire un des personnages.
Ouais.
Comme ça, en fait, on lit ensemble, je lui lis quand même l'histoire, mais elle lit certaines bulles de certains personnages. Pour ça, la BD, c'est génial, parce que tu peux vraiment lui dire, tu vois, quand c'est lui qui parle, parce qu'il y a le phylactère, quand c'est lui qui parle, ben, c'est toi qui lis. Et donc ça débloque, parce qu'elle a envie que l'histoire avance, tu vois. Qu'elle m'a dit, ouais, mais tu vois, les histoires, quand t'apprends à lire, il y a une phrase dans la page, et en plus, elle est nulle, c'est « le chien a mangé l'os ». Moi, ça m'intéresse pas, j'ai pas envie d'apprendre à lire ça. Alors là, c'est tout le processus de dire, ouais, en fait, faut que tu passes par un apprentissage, donc un effort, ce qui est hyper important à transmettre aux gamins.
Ouais.
Un apprentissage, un effort, pour qu'ensuite, t'arrives à lire un grand livre. Putain, ça, quand t'as une tête en bois comme la mienne en face, des fois c'est.
Tu veux dire que les chats font pas des chiens?
Ouais. Un peu. Je vais un peu dire ça.
Tu disais que la plus petite avait pas forcément eu ces moments privilégiés. C'est-à-dire que t'as pas la sensation d'avoir réussi à réitérer ce genre de moment avec elle, où c'est difficile de se séparer en deux, c'est ça?
Bah, en fait, t'as Oedipe aussi. Hein. Donc, les enfants, ils sont un peu les petites filles avec leur papa. C'est quand même un truc de fou. Hein. Moi, ouais. Je m'y attendais pas, mais c'est quand même un truc de dingue. Mais quand elle dit, maman, tu dégages, tu me laisses vivre avec papa. Enfin, tu vois, c'est.
Elle dit ça.
Ah, bah, quand la petite est née, quand la deuxième.
Ah, oui, oui.
Ouais. Okay. Mais en fait, ce que je veux dire, c'est que le deuxième enfant, le premier, t'étais qu'à lui, en fait.
Ouais.
Le deuxième, ben, t'es toujours un peu avec la sœur ou le frère. C'est rare, les moments tout seul. Et là, par exemple, cette semaine, c'est marrant que tu me poses cette question, cette semaine, j'étais avec ma gamine, la petite, parce que sa maman et la grande étaient en classe verte avec l'école. Donc, j'étais tout seul. Et au milieu de la semaine, la petite, elle me dit, papa... quand est-ce qu'elle rentre, Roxane? Donc la grande. Quand est-ce qu'elle rentre, Roxane? Je lui dis, bah, après-demain. Je dis, déjà? Parce que c'est tellement bien, tous les deux. Tu vois? Et donc, la deuxième, elle en a moins vécu des moments comme ça. Après, tu vois, je dis... Mais la deuxième, par exemple, elle est obligée de se taper des histoires de la grande. Donc, elle a moins de livres pour les petits. Parce que je peux pas non plus lire 15 000 histoires, même si j'en lis beaucoup.
T'es un aîné, toi?
Ouais.
Ouais. Ta femme aussi, c'est un aîné?
Non, c'est la dernière.
Ah oui. Avec ma meuf, on est tous les deux des aînés et on a eu beaucoup de mal à gérer justement la petite deuxième à cause de ça, parce que cet aspect... Mais qui êtes-vous?
Ouais, mais clairement. Hein.
Très compliqué, quoi.
C'est compliqué. Après, t'as toujours l'impression que tu vas pas avoir... J'ai plein de copains qui me disent ça. Je fais pas un deuxième parce que je suis trop amoureux du premier. Je l'aime trop et j'aurais pas de place dans mon cœur pour un deuxième. Et en fait, quand tu reçois le deuxième dans les bras, c'est la même évidence qu'avec le premier, quoi. Tu l'aimes autant et juste t'as plus de place, en fait. Ton cœur est plus gros, quoi. Oh,
c'est beau ce que tu dis.
Bon, t'as vu, je suis un poète du quotidien. Non, mais oui, et ces moments. En fait, je pense que ça aussi, c'est un truc que j'essaye de mettre en place, entre guillemets. Alors, je suis pas en train de faire une entreprise, mais que de vraiment privilégier des moments avec l'une ou avec l'autre tout seul. Et même les deux parents tout seuls avec l'une ou avec l'autre. C'est plus compliqué à faire, mais là, maintenant, elle commence à être grande, donc tu peux les laisser un peu plus aux grands-parents, aux copains, tu vois, pour faire alternativement des trucs avec juste. L'une des deux, mais les deux, avec ses deux parents.
Ouais, je suis d'accord. C'est une bonne idée, c'est une bonne façon de aussi pour la petite deuxième de rendre un truc qui est. T'as jamais eu droit à des moments tout seul comme l'aîné a pu avoir droit, quoi.
Et tu vois, comme elle les savoure, ces moments, quoi. C'est incroyable.
Ouais, c'est clair. Est-ce qu'on peut parler de conseils lecture? Est-ce que t'as des conseils lecture pour tes.
Ah ouais, j'en ai plein.
Pour les jeunes parents qui.
J'en ai plein. Bah, clairement, pour les âges qui commencent à apprendre à lire.
Ouais.
Mais où tu. Alors, c'est pas un livre qu'ils vont lire eux, hein, mais. Alors, c'est un livre que j'ai publié, mais il se trouve qu'il est coup de cœur de beaucoup de libraires. C'est pour ça que je le conseille. Je vais pas te parler que de livres que j'ai publiés. Mais
tu peux,
c'est
un bouquin. Tant qu'à faire.
Non. C'est pas mon style. C'est un bouquin qui s'appelle L'incroyable histoire de la poire géante. C'est un album, mais avec des chapitres. Un album long, avec des chapitres. Une aventure incroyable.
De poire?
De poire. Dans une poire géante, ouais. Et c'est une aventure maritime, c'est un truc de fou. Ce bouquin est incroyable.
Tu veux dire, il y a la mer dans une poire, que se passe-t-il?
Tu vas voir. Il y a deux personnages qui pêchent, deux petits personnages très mignons. C'est un bouquin danois. Ils pêchent et au lieu de choper un poisson, ils chopent une petite bouteille. Et dans cette bouteille, il y a un message. Et dans ce message, de ce message tombe une petite graine. Ils ne savent pas ce que c'est, ils la plantent. Et là, boum, apparaît une poire géante. Et il se trouve qu'ils habitent dans un petit village au bord d'un fjord et le maire de ce village a disparu. La poire, le maire a été remplacé par un personnage complètement désagréable. Et il voit cette poire et il dit non, mais c'est pas possible d'avoir une poire géante ici, donc vous me virez ça. Et la poire se met à rouler, elle tombe dans le port et nos deux personnages vont la creuser, en faire une maison et partir sur la poire qui vogue en mer.
Okay.
Et dans ce voyage, ils vont rencontrer des pirates, ils vont rencontrer un dragon marin qui a une sorte de truc à la Jules Verne incroyable, mécanique. Et ils vont retrouver le maire de la ville dans l'île où poussent les poires géantes. Ça paraît complètement fou, cette histoire. Et c'est hyper drôle, hyper bien mené. C'est un vrai roman d'aventure pour enfants, avec des illustrations qui vont te parler de Tintin, de parler d'Astérix, de Nemo et tout. C'est un best-seller en librairie. C'est un très beau livre. Et franchement, je l'ai offert à des dizaines de gamins. ils sont tous complètement fans de ces livres-là. Donc, de ce livre-là. Mmh. Et tu vois, ça, c'est les magies de l'édition. Je l'ai trouvé en faisant un rendez-vous complètement pour autre chose. Et je vois le truc sur l'étagère et j'arrive pas à me détacher mes yeux du bouquin dans une grande foire à Francfort. Et puis je dis, s'il vous plaît, je peux le feuilleter. Ah, mais il est pas acheté en France. Ah.
C'est pour moi.
Ouais, c'est. Et sinon, dans les derniers bouquins que j'ai lus, moi, j'ai pour les grands comme ça, c'est grand 6-7 ans, j'ai beaucoup aimé un livre de chez Thierry Magnier, ouais, qui s'appelle Le jour où le grand chêne est tombé, qui est un très très beau livre sur un village au pied d'une colline. En haut de cette colline, il y a un énorme chêne qui représente beaucoup de choses pour ce village, parce qu'il est là depuis toujours, et puis un jour il tombe. Et tout le village essaye de le relever. Et ils n'y arrivent pas. Et ils se font aider par les animaux de la forêt, puis par les animaux domestiques qui vont s'associer aux animaux de la forêt et faire ensemble une espèce. Ils vont s'agglomérer, ils vont faire une espèce d'énorme créature qui va relever le chêne. Et tout ce moment est hyper beau, quoi. C'est une très belle histoire. Et les enfants, ça les touche beaucoup. Et après, ils vont jouer, les enfants, dans les traces. Le chêne, comme il est tombé comme ça, les branches ont fait des traces au sol très profondes et ça leur fait un labyrinthe et tout. C'est vraiment très, très beau. Pareil, je crois que c'est chez Thierry Magnier aussi, Kiwi Grizzly, qui est un livre qui vient de sortir, qui est très chouette, où en fait, t'as une gamine qui est invitée à l'anniversaire d'un de ses copains de l'autre côté de la forêt, et il faut être déguisé en animal. Donc elle se déguise en ours, et dès les premières pages, tu vois qu'elle enfile un costume d'ours, mais elle se transforme dans le dessin en ours, vraiment. Puis elle rencontre des drôles d'enfants dans la forêt. Et ses enfants, et quand elle arrive à la fête d'anniversaire, ses enfants débarquent et cassent tout dans la fête d'anniversaire. Font un bordel pas possible. Et en fait, on se rend compte dans l'histoire que c'est les animaux de la forêt qui sont déguisés en humains. Ah. Et les copains de cette fille en animaux. Et c'est super drôle, beau. Et après, ils deviennent copains, ils jouent ils font des fêtes dans la clairière. C'est très très chouette. Après, il y en a plein. La piscine magique, là aussi, c'est chez Didier Jeunesse, je crois. Très très drôle. Alors, je peux pas raconter la fin, mais en gros, le roi de la savane, un lion, a une piscine magique. Tous les animaux rêvent d'y aller, de se baigner dedans. Et en fait, cette piscine, elle a une particularité, c'est que quand tu dis un mot, l'eau se transforme en ce mot. Donc, il y a un animal qui dit parfum, il tombe dans une piscine de parfum, l'autre qui va dire, je sais pas, jus de fruits. Puis arrive la reine, Cléopâtre, très belle, très prétentieuse, qui vire tous les animaux. Puis en fait, elle glisse sur le plongeoir, elle dit crotte. Et là, le bouquin s'arrête. C'est très très drôle. Et non, sinon, moi j'ai lu avec ma grande La Ballade de Cornebic, qui est un bouquin de Jean-Claude Mourleva, qui est un vrai roman pour le coup. Mais ça marche super bien. C'est très très drôle, un peu western. Et c'est un personnage adulte. Le personnage de Cornebic, c'est une chèvre qui doit fuir l'endroit où elle habite et qui va finir par être sauvée par les gens qui l'ont rejetée. Enfin, c'est très 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 beau. Et c'est une super aventure. Voilà, je peux t'en dire plein d'autres. Il y a eu aussi dans les romans albums Rat et les animaux moches, qui est un. Alors ça, je sais plus du tout chez quel éditeur c'est, mais on trouvera facilement. Et alors Rat, en fait, est rejeté par les hommes, et comme plein d'animaux moches dont on pense qu'ils ne servent à rien. Et Rat, donc ils se réfugient tous dans un village, et entre eux, quoi. Tu vois, comme un village de lépreux, tous les animaux moches qui servent à rien. Et Rat décide de leur donner un rôle. Et en fait, ce qui est génial, c'est que ça, à travers ces bouquins-là, t'apprends la différence et t'apprends le rôle que chacun peut avoir malgré ton apparence, etc. Et donc là, t'as tous les animaux les pires, les plus moches de l'existence. Il va leur trouver un rôle où ils vont être indispensables. Et il va les placer chez des gens. C'est vraiment super. Et puis, il y a un caniche qui arrive dans ce village. Il s'est perdu. Ils vont essayer de l'aider. En fait, il fout la zone parce qu'il est très prétentieux. Il leur dit à tous qu'ils sont moches. Et donc, ils perdent d'un seul coup leur confiance en eux et tout.
Pour moi, un caniche était moche.
Mais ouais, je suis d'accord. Okay. Mais lui, il pense qu'il est beau. Ouais, voilà, je peux t'en dire beaucoup.
Hein. Ah bah vas-y, hein, balance, franchement.
Des conseils de lecture pour les petits. Hein. On reste sur les petits. Hein,
ouais.
Les petites poules. Ouais. Si tu connais les petites poules, bah c'est chez nous aussi. Alors ça, c'est merveilleux. Et puis t'en as 17. Les gamins sont complètement dingues, les petites poules. Les histoires de Piticoque, Carmela. Ça apprend à grandir aussi, ces livres-là. C'est dur comme ça, là.
C'est déjà très bien. Il y a plein de... Est-ce que t'aurais, je sais pas, un conseil à donner aux parents qui voudraient inciter leur môme à lire et qui... T'en as déjà donné pas mal, en fait, mais si t'en avais un...
Ah bah moi, clairement, le truc qui marche, c'est de lire ensemble. lire à deux. Il y a des collections hein, de livres comme ça où c'est des petites histoires et puis t'as le narratif du texte, c'est l'adulte qui le lit et les bulles, c'est l'enfant qui, avec un texte beaucoup plus simple. Tu peux commencer par ça. Mais moi, vraiment, je trouve qu'il faut leur donner des trucs qui les intéressent. Bah, je te disais que ma gamine, elle adore Brassens.
Ouais.
Je lui ai écrit les paroles de Brassens sur un papier.
Ouais.
Et en fait, alors comme elle les connaît par cœur, j'essaie de lui trouver des endroits où elle le connaît un peu moins par cœur. Et en fait, il faut que je lui dis, bah tu lis et tu me dis quel est le titre de la chanson. Donc par exemple, ça la motive. Et ça, typiquement, c'est un truc que m'a appris Montessori. C'est que la maîtresse, enfin en tout cas l'école où elle était, la maîtresse m'a dit, elle veut pas lire. Ok, on va prendre un truc qui l'intéresse et on va, au lieu de lui donner la méthode, elle va lire ça. Elle va lire des choses qui l'intéressent. Donc elle aime Brassens, on va lui faire lire du Brassens. Elle aime s'intéresser aux insectes, on va lui faire lire des trucs sur les insectes. Et donc tu raccroches l'intérêt de la lecture à un intérêt personnel de l'enfant. Ça, je trouve ça super, parce que ça paraît évident, en fait, quand tu le dis, t'as envie de lire des trucs qui t'intéressent.
Oui.
Et puis, tu vois, Yakari, tout ça, tu prends le personnage de d'Arc-en-Ciel, la copine de Yakari, et ta gamine... va lire Arc-en-Ciel. Si t'as un garçon, il va vouloir plutôt lire Graines de Bison, son copain d'Yakari. Je maîtrise bien.
Hein. Je me souvenais plus de...
Bah, je les ai lus 480 fois la semaine dernière, donc je les connais bien.
Elles sont un peu compulsives, elles veulent toujours plutôt lire le même bouquin.
Bouquin, mais quand même, il faut que ça tourne souvent. Ouais.
Oui. Revenir à des trucs qu'elles connaissent un peu.
Absolument.
Y a une question que je pose à tous les pères qui ont des jeunes enfants, comme toi. C'est qu'est-ce que tu as envie de dire à tes enfants si elles écoutent toutes les deux ce podcast dans 10 ans. Elles ont 16 et 13, 14, c'est ça?
j'ai envie de leur dire que j'espère, enfin, j'espère vraiment qu'on a gardé une relation telle qu'on a actuellement, qu'elles ont confiance en elles et que j'espère que ce que je leur ai donné, leur donne, ce que j'ai essayé de leur donner, leur ont donné cette confiance qui permet d'être plus à l'aise dans la vie, quoi, de se débrouiller, en fait. Et que c'est vraiment... mon objectif principal, c'est qu'elles soient bien dans leur peau. Et j'ai pas d'objectif de carrière, de les pousser à des réussites matérielles. Évidemment, j'aimerais bien qu'elles soient bien dans la vie, mais l'important, c'est d'être bien dans sa peau, quoi. Et c'est ça que j'essaye de leur donner, en leur donnant une curiosité sur le maximum de choses possibles.
Ça vient d'où, tu penses ? C'est marrant parce que j'ai vraiment eu pas mal de darons dont l'objectif était justement de donner de la confiance en elles et souvent à leurs filles, c'est marrant.
Ouais, bah peut-être qu'on est dans une époque où on prend vachement conscience de la différence entre être un homme et être une femme dans la société. C'est intéressant en ce moment. Bah, tu vois, justement, cette copine psy m'avait expliqué qu'elle avait eu des consultations de pères de notre génération, en fait, pour qui c'était dur aussi, parce que... à la fois, ils essaient d'être super égalitaires à la maison, de partager vraiment les tâches, de s'impliquer comme père, comme ce qu'on dit tous les deux, tu vois, de s'impliquer dans l'éducation des enfants, mais qu'il y avait encore cette pression sociale avec un congé paternité tout pourri, quand tu prends ton mercredi après-midi, une nana qui prend son mercredi après-midi, on a l'impression que c'est normal, un mec, en fait, il a pas d'ambition professionnelle, tu vois. Alors, ça révèle plein d'autres problèmes. Ça révèle plein d'autres problèmes qu'on doit régler avec la lutte pour le féminisme en ce moment. Mais pour les pères, ça met aussi cette pression dont on parle jamais. Et elle, qui est très engagée, c'est une psy vraiment très engagée pour la cause des femmes, mais elle m'expliquait à quel point ça pouvait être très dur. Elle avait des pères en burn-out, en fait, parce qu'ils avaient cette pression sociale, plus la pression qu'ils se mettent eux-mêmes, parce qu'on est à une époque de changement. Je vais pas faire comme mes parents ou comme mes grands-parents pour qui changer une couche, c'était pas possible, ou passer ton après-midi avec tes gamins, c'était pas possible. Je veux m'impliquer vraiment, mais en même temps, j'ai cette pression et on me donne pas du tout les moyens d'être vraiment père. Et dans la société, je veux dire, c'est pas très bien vu. Moi, je suis entouré de gens qui font ces choix-là, tu vois, mais c'est pas courant, en fait. Et des mecs qui burn-out, quoi, vraiment, qui explosent, en fait, ils peuvent pas tenir les deux pressions, quoi. Et ils s'en veulent, enfin, tu vois. Et ça, c'est quelque chose dont on parle pas du tout, parce que l'époque est pas à ça, et qu'on a envie de se dire, oui, bah, les mecs, ça va, vous avez dominé le monde pendant 2000 ans.
Mais va falloir s'en occuper.
Mais à un moment, la souffrance, en fait, la souffrance collective entre guillemets, une minorité qui n'est pas une minorité, puisque les femmes sont plus nombreuses que les mecs, donc la majorité, peut pas occulter la souffrance individuelle. En fait, c'est deux choses complètement différentes. Et je pense que ça, c'est hyper important de le prendre en compte, quoi. Mais après, dès que tu dis ça, on te dit, ouais, mansplaining et tout, mais c'est pas ça la question, en fait.
Non, c'est pas la question. Je pense que c'est une réalité,
en plus. Une vraie souffrance individuelle, et je pense que ça, c'est notre job, en fait, de père actuel, c'est de réussir à concilier les deux, comme les femmes l'ont concilié depuis des centaines d'années, mais parfois dans la souffrance et même souvent. Donc ça serait bien que nous, on arrive à trouver une solution, qu'on nous aide aussi. Tu vois, j'ai vu là récemment qu'en Suède, je crois que c'est en Suède ou en Finlande, je sais plus, il y a un congé parental qui est en fait...
C'est en Islande, je pense.
En Islande.
Divisé par deux, c'est ça?
Ouais, mais si le père le prend pas, la deuxième partie est pas donnée à la mère. Donc, en gros, ça oblige le père à prendre son congé, mais ça, c'est aussi une preuve que l'État soutient le fait que le père ait la moitié des parents, quoi. Ce qu'on occulte assez souvent depuis des générations ici, quoi. Et en fait, je pense que aider les pères, en fait, ça aide le féminisme.
Ah ouais.
Ça aide la cause des femmes, en fait. Aider les pères aide les femmes, ouais, je pense vraiment. Parce que si t'aides le père à prendre sa place de père, eh ben, normalement, la maman, c'est un peu, normalement un peu plus facile, quoi. Et donc, je pense que c'est notre rôle de père actuel. Vraiment, de trouver les solutions pour le faire. Et donc, faire des choix, tu vois.
Et puis, de le dire aussi, je pense que c'est très bien de le dire.
Et de le dire.
De le dire, parce que pour moi, il y a un truc aussi chez les mecs qui est un peu fucked up. Qui est, je souffre, mais je le dis pas, parce que je suis un bonhomme.
Je souffre, je le dis pas, bien sûr, bien sûr. Ouais, ouais, mais carrément. Carrément. Et puis il y a encore plein de mecs qui fonctionnent comme nos grands-parents, quoi.
Bah oui.
Le mec va pas s'occuper des enfants et tout. Il y en a plein. Mais justement, nous qui le faisons pas, effectivement, faut qu'on le dise. Faut qu'on dise, ouais, des fois c'est dur. Ouais, bah là, j'ai passé la semaine avec mes enfants. J'ai galéré. Mais parce que c'est arrivé à tellement de nanas que c'est bien aussi qu'on puisse nous le dire. Que ça soit pas. Ouais, que ce soit pas tabou, quoi. Surtout qu'il n'y a pas de tabou à avoir.
Ah bah non.
C'est pas parce que tu t'occupes de tes gamins que t'es faible. Non, mais j'ai un copain journaliste qui m'a dit un truc hyper drôle là-dessus. Il me dit, voilà, moi, je suis vachement impliqué avec mes gamins, et mon père me voit changer la couche de ma dernière née. Et il me regarde attendri et il me dit, oh, c'est bien, elle a deux mamans, cet enfant. Pensant lui faire plaisir, tu vois.
Oui.
Et c'est tellement à côté de la plaque, et en même temps, tu comprends pourquoi il dit ça,
bah oui.
Historiquement. Mm. Mais c'est tellement révélateur et tellement à côté de la plaque, tu vois. Alors lui, c'est son père, il l'a pas mal pris et tout, mais il se disait, waouh. Et tu vois, ça veut dire beaucoup de choses,
ça. C'est pas une mauvaise idée en même temps de mettre une petite claque derrière son oreille à son père de temps à autre pour lui faire prendre conscience que.
Bien sûr, mais c'est trop tard.
Tu vois, c'est trop tard.
Des grands, des enfants.
Ça peut marcher avec les petits enfants. Il y a aussi des prises de tête.
Absolument.
Avec tout ça, quoi.
Ouais, ouais, absolument.
Moi, je me suis beaucoup battu contre mes parents sur.
Ouais.
Les conneries qu'ils pouvaient dire à mes propres enfants.
Ah, bah, c'est sûr.
Bon, faut pas trop les emmerder. En tout cas, merci beaucoup, Xavier.
Bah, écoute, je t'en prie.
C'était trop bien.
Je suis bavard, je suis désolé. Hein.
Ah, mais non, mais, enfin, c'est le principe. Hein. Je t'ai invité, c'est pour te faire parler. Si on veut découvrir un peu plus ton travail d'une manière générale, faut aller vers les livres de Pocket Jeunesse.
Ouais, faut aller vers les livres de Pocket Jeunesse, plutôt dans le rayon ado.
Ok.
Donc, voilà, allez, n'hésitez pas. Et si vous voulez lire un très bon livre, je fais un tout petit peu de pub.
N'hésite pas. C'est le moment.
Un très bon livre qui parle de transmission entre générations, alors pour, je dirais, 15 ans et plus, et en fait aussi beaucoup pour adultes, le livre de Vincent Vimino qui va sortir dans 2 semaines, qui s'appelle « Nous sommes l'étincelle ». Vous pouvez le trouver là au stand de Pocket Jeunesse si vous êtes au salon. Mais
qui va sortir donc
le 4 avril.
Le 4 avril.
Et c'est une merveille. Moi, c'est un des livres qui m'a le plus bouleversé depuis que je suis éditeur. Vraiment, vraiment, vraiment. Et il parle beaucoup de parents, de relations entre parents et enfants, dans une forêt, dans un monde où tout va pas très bien, c'est bouleversant.
Eh ben écoute, tu m'as teasé tout à l'heure, juste avant qu'on démarre. J'espère qu'on pourra avoir Vincent au micro d'Histoire de Daron, en tout cas. Merci beaucoup.
Bah, avec grand plaisir.
Salut.
Salut.
C'est terminé pour cet épisode. Un grand, grand merci d'avoir écouté. Je vous invite à venir réagir soit sur l'Instagram de Rocky, c'est sur RockyMag, RockyEmag, soit sur mon Instagram perso. Moi, je suis sur FabFlorent, FabFlorent, soit sur YouTube, sous la vidéo de cet épisode. Vous trouverez le lien dans les notes du podcast. J'adore lire vos commentaires. Je vous rappelle aussi que si le concept vous plaît, vous pouvez en parler autour de vous, partager sur les réseaux sociaux. Le bouche à oreille, c'est encore le meilleur moyen de faire connaître ce programme. Si vous voulez passer à mon micro, que vous avez une histoire ou une situation qui fait de vous un daron un peu particulier, vous pouvez écrire un mail à histoirededaron@rockymac.com. Histoire de daron, histoire avec un S, daron avec un S. Je vous mets l'adresse directement dans les notes du podcast. Enfin, je vous rappelle qu'un nouvel épisode d'Histoire de Daron sort chaque premier et troisième lundi de chaque mois. Rendez-vous donc très bientôt pour le prochain. Et d'ici là, je vous souhaite à toutes et à tous une très belle vie.